votre invité Sonia Mabrouk, c'est le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Olivier Véran. Face à une résurgence du virus, la France est-elle prête?
La France se prépare avec un plan en quatre piliers, très rapidement. D'abord préparer les hôpitaux. Nous sommes capables, s'il y avait une deuxième vague, d'ouvrir jusqu'à 12 000 lits de réanimation contre 5 000 en temps normal et 9 000 pendant la première vague, et d'accueillir jusqu'à 30 000 malades en réa, avec médicaments, respirateurs, équipes, contre 17 malades que nous avons accueillis au cours de la première vague. Nous avons un plan pour protéger les publics les plus fragiles, les personnes précaires, isolées, les personnes en EHPAD, et nous avons également un plan pour pouvoir réaliser le fameux testing, tracing, isolement.
Vous excluez un reconfinement généralisé ?
Nous ne voulons pas cette solution du confinement.
Elle est donc exclue.
Nous sortons le 11 juillet de l'état d'urgence sanitaire, ce qui fait que nous n'aurons plus les moyens légaux de procéder à un confinement généralisé. On voit chez certains de nos voisins un confinement localisé qui peut être mis en place sur une durée pour l'instant assez courte lorsqu'il y a des clusters avec une dissémination du virus de peur que ça échappe. Mais la limitation des grands rassemblements, les mesures que nous avons maintenues malgré tout dans la loi, et puis surtout cette dynamique, vous savez, aujourd'hui, c'est plus le virus qui nous traque, c'est nous qui le traquons. Avec seulement 1% des tests que nous réalisons qui sont positifs, avec des indicateurs pilotés heure par heure sur tout le pays. Et donc nous mettons tout en œuvre pour ne pas avoir à procéder à un confinement tel que la France l'a connu et tel que les trois quarts de la planète l'ont connu.
Dont une vaste campagne de tests massifs dans les zones à risque, d'abord en Île-de-France. Mais pourquoi, monsieur le ministre, vous ne l'avez pas fait plus tôt ?
Une campagne de tests massive. Nous avons réalisé des campagnes de tests massifs. Vous savez, au quotidien, il y a ce qu'on appelle des barnums.
Ça dépend ce que vous appelez massif. Quand
barnums,
on compare
sont des
avec
opérations.
D'autres pays, ce n'est pas le cas.
Un barnum, c'est une opération de test qui est réalisée, par exemple, au centre d'une ville, ou au pied d'un immeuble, ou dans un gymnase, où nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent, même sans symptômes, à venir se faire dépister. Il y en a des dizaines et des dizaines qui sont réalisées chaque jour. Et avec 1% de tests positifs, ça veut dire que 99% des gens que nous testons n'ont pas le coronavirus. En termes de maille, on est dans quelque chose qui est déjà très serré. Mais l'opération que j'ai annoncée consiste à envoyer des bons de l'assurance maladie chez les gens, dans 30 communes de France et d'Île-de-France, 1 300 000 personnes, pour leur proposer, s'ils le souhaitent, on ne va pas les obliger évidemment, à pouvoir bénéficier d'un test
mais
sans
prescription.
Mais je
répète la question, pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt, cette opération que vous décrivez ?
Cette opération massive en milieu asymptomatique, nous la faisons en tirant le constat qu'il y a des clusters qui sont des clusters sans dissémination communautaire, c'est-à-dire limité à quelques milieux professionnels, et nous voulons regarder quel est l'impact autour. Il y a un aspect recherche, un aspect épidémiologique et un aspect veille sanitaire.
Est-ce que vous n'aviez pas, monsieur le ministre, les capacités en test, ou est-ce que vous assumez de ne pas avoir utilisé, de ne pas utiliser aujourd'hui à plein les capacités de test de la France ?
Sonia Mabrouk, aujourd'hui, les laboratoires privés, rien que les laboratoires privés, nous disent être en mesure de faire 150 000 tests par jour. Il n'y a pas de pénurie d'écouvillons, de cônes.
Et combien on en fait concrètement dans les faits ?
Il y a 250 000 tests qui sont réalisés par semaine.
Toutes et par jour, monsieur le ministre ?
Ben 250 000 divisé par 7. Toutes les personnes.
Donc ça reste insuffisant si on compare par rapport à d'autres pays. C'est souvent la remarque qui revient.
J'étais hier avec le ministre allemand de la Santé. Nous comparions les capacités de test. Ils ont une capacité théorique d'un million par semaine. Nous avons une capacité théorique d'un million par semaine. À moins d'aller chercher les gens chez eux et de les contraindre à avoir un examen, ce que, évidemment, on n'a aucun intérêt, aucune volonté de faire, on en est là aujourd'hui à ce qu'on n'est pas à saturation de nos capacités de test. Les laboratoires privés nous disent pouvoir en faire 150 000 par jour. Si la situation devait s'aggraver et qu'il devait y avoir davantage de virus et que le taux de positivité des tests remontait, nous serions en mesure de réaliser plus de tests. On ne va pas contraindre des gens, mais regardez, on va jusqu'à les inciter en leur envoyant des ordonnances chez eux alors qu'ils n'ont rien demandé.
Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des millions de tests PCR qui sont inutilisés dans les laboratoires et bientôt inutilisables, car périmés, vous le confirmez ?
Nous avons des stocks de réactifs, des stocks de cônes, je vous confirme qu'on
des
est en mesure...
Des millions de tests, bon pour la poubelle ?
Non, pas bon pour la poubelle du tout. Nous avons des millions de tests qui sont stockés dans notre pays au cas où il y aurait une résurgence épidémique, de manière à ce que vous ne me posiez pas dans 3 ou dans 6 mois ou je ne sais quand, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas préparé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de stock de tests.
Monsieur le ministre de la Santé, le gouvernement doit la vérité aux Français, évidemment, sur la gestion de la crise. Est-ce que vous excluez tout soupçon de collusion entre les intérêts du laboratoire Gilead et des membres du conseil scientifique ?
Moi, je n'aime pas les accusations ad nominem. Et je considère que les membres du conseil scientifique ont fait une action gratuite depuis plusieurs mois maintenant dans notre pays.
Vous en êtes sûr ?
Ont été importants.
Qu'il n'y a pas de soupçon de conflit.
Moi, je suis sûr qu'ils n'ont pas été payés par le gouvernement ou par qui que ce soit pour réaliser leur action au sein du conseil scientifique.
C'est pas la question. Est-ce qu'ils ont des liens financiers avec des laboratoires ?
Sur une accusation comme celle-ci, je vais prendre le temps de vous répondre, Sonia Mabrouk. Moi, je suis médecin hospitalier au service du service public hospitalier. Je n'ai jamais été payé par un laboratoire. Ma conviction personnelle et ma pratique personnelle, elle est que je pense qu'il faut revoir encore davantage les liens entre l'industrie pharmaceutique et les médecins. Mais pour autant, Pour autant, aujourd'hui, vous avez un encadrement par la loi qui s'appelle une déclaration publique d'intérêt, qu'ont signé tous les membres du Conseil
scientifique.
Monsieur
le ministre, non, mais attendez, parfois, cette déclaration peut être incomplète.
Ce qui veut dire que les déclarations publiques d'intérêt engagent ceux qui les signent et qu'elles sont par définition publiques. Bien. Je n'ai pas d'amitié particulière pour un laboratoire ou pour un autre. Et si vous citez le laboratoire Gilead, par exemple, lorsque j'étais député, vous pourrez voir que lorsqu'il y avait un traitement contre l'hépatite C qui avait émergé, j'avais même convoqué moi-même le président du laboratoire pour dire que le prix était excessif.
J'entends bien. Ma question, je vous la répète, concerne les membres du Conseil scientifique qui ont quand même géré cette crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun lien avec ces personnes et les laboratoires Gilead ?
Je peux vous dire, Sonia Babrouk, qu'il n'y a eu aucune intention cachée ou directe d'aucun membre du Conseil scientifique pour nous pousser à prescrire quelques traitements que ce soit.
Y compris le Remdesivir.
Mais y compris le Remdesivir, je n'ai eu aucune recommandation du Conseil scientifique sur le Remdesivir. Vous savez, je respecte profondément la science. Profondément. Je me suis assez appuyé sur la science. Je considère que la science n'a pas toujours été suffisamment claire dans la période. Maintenant, on a demandé à la science de fonctionner au rythme médiatique et au rythme politique. Or, le temps scientifique n'est pas le rythme médiatique ni le temps scientifique. Je ne laisserai pas non plus salir la science par tel ou tel au prétexte qu'on veut faire valoir ses arguments. Je crois qu'il faut qu'on garde collectivement confiance. La déclaration publique d'intérêt est un élément fondamental d'une loi qui a
donc
été adoptée par
notre
majorité,
pris,
mais que
donc
j'ai
Donc vous
soutenu,
estimez, monsieur le ministre, avoir pris toutes les garanties pour éviter qu'on
nous
apprenne dans quelques semaines ou quelques mois
nous
des conflits
respect,
d'intérêts entre ces personnes
mais,
et des laboratoires.
Mais nous sommes dans le respect scrupuleux de la loi et qui dit conflit d'intérêts dit tentative de promouvoir un produit par quelqu'un qui serait payé par un laboratoire. En l'occurrence, chercher dans tous les avis du Conseil scientifique, il n'y a pas une ligne qui va traiter de ce traitement, ou alors elle m'a vraiment échappé, Sonia Babrouk, il n'y a aucune influence, et à l'heure à laquelle je vous parle, aucun médicament n'a reçu le blanc-seing des autorités sanitaires, et aucun médicament des laboratoires qui peuvent avoir des liens d'intérêt, non pas des conflits d'intérêts avec les scientifiques du Conseil scientifique, n'est actuellement recommandé ou prescrit.
L'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser, justement on en parle, le Remdesivir, ce qui en ferait le premier médicament, monsieur le ministre, de ce type contre le Covid. Vous êtes favorable à sa commercialisation en France ?
Moi, je vais pas être favorable à une commercialisation. J'attends l'avis de la Commission européenne suite à l'avis de l'Agence européenne du médicament. Ensuite, j'attendrai, comme je l'ai fait pour tous les traitements, l'avis des agences françaises du médicament, la ANSM, le Haut Conseil de Santé publique. Ce que je peux dire, c'est que ce traitement, il a pu montrer une efficacité, mais qui reste extrêmement relative. Et qu'à date, hélas, à l'heure à laquelle je vous parle, nous n'avons toujours pas un médicament qui ait fait montre d'efficacité dans la lutte contre le coronavirus, à l'exception d'un très vieux médicament, la dexaméthasone, qui est une forme de cortisone qui marche dans les formes très sévères hospitalières.
Selon le professeur Raoult, il faut bien parler de lui, vous ne l'avez pas encore
pas
fait,
forcément.
Vous n'avez pas répondu. Ah quand même, il a été entendu, c'est important, les mots qu'il a dit et les accusations qu'il a portées. Selon lui, vous seriez mal entouré, sous influence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de la Haute Autorité de Santé. C'est quand même grave comme accusation pour un ministre de la Santé en exercice et surtout en pleine crise sanitaire.
En fait, vous avez tout dit, Sonia Babrouk. En fait, je suis ministre de la Santé. Je ne suis pas dans le commentaire, encore moins dans l'accusation. Mon seul enjeu, c'est d'assurer la sécurité et la santé des Français au quotidien, jour après jour, nuit après nuit, avec des équipes scientifiques, avec des équipes administratives, en transparence.
Vous n'êtes pas sous influence.
Est-ce que j'ai l'air d'être sous influence ?
Je ne sais pas.
Je vous réponds très tranquillement que non. Et vous rassure par là même si vous étiez inquiète.
Je ne suis pas inquiète, ce sont des réponses que se posent, je suppose, les citoyens et les Français, et surtout les soignants. Se pose cette question, monsieur le ministre, 6 milliards de revalorisation pour les personnels hospitaliers, médicaux. Est-ce que c'est une somme, une enveloppe qui va être reconduite chaque année? Elle est importante.
Ah oui, c'est une enveloppe de revalorisation. Le président de la République et le Premier ministre ont souhaité, à travers ce Ségur de la santé, montrer la reconnaissance et la juste valorisation des métiers des blouses blanches qui ont pris énormément soin des Français pendant cette crise et qui prennent soin d'ailleurs en dehors de la crise des Français au quotidien. Il y avait un décrochage du niveau de rémunération des soignants hospitaliers par rapport au salaire moyen. Il y a eu des baisses de budget hospitalier année après année au cours des 10 ou 15 dernières années. Et c'est l'engagement de cette majorité que d'aller soutenir et d'aller valoriser leur action. 6 milliards, c'est beaucoup, Sonia Babrouk. C'est presque l'équivalent du budget de la justice qui doit être de 7 milliards ou 7 milliards et demi. Et c'est une revalorisation qui est annuelle et qui n'est pas pour solde de tout compte, puisque nous transformons également l'hôpital, la médecine de ville, le lien entre les deux, le médico-social, les EHPAD. L'ensemble des acteurs doit être concerné. Nous allons parler de santé publique, de prévention, d'organisation des soins, de lits hospitaliers, de financement de l'hôpital. Et nous allons parler également des engagements des soignants, de l'organisation du travail, de manière à simplifier, fluidifier, améliorer la prise en charge des
malades. Mais quand on vous entend, on se demande pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Patrick Peloux dit ce matin « Mais ce n'est pas possible, on est dans un sale état, on est désespéré, ce n'est pas suffisant. Votre enveloppe qui va être répartie, vous l'avez dit, monsieur le ministre, entre les hôpitaux, les EHPAD publics et, pour partie, le privé. »
6 milliards d'euros, Sonia Mabrouk, d'augmentation annuelle. 6 milliards d'euros.
Vous allez arrêter, monsieur le ministre, la suppression de lits en ce moment et les réorganisations, les restructurations?
J'ai gelé toutes les restructurations. J'ai gelé, je l'ai annoncé il y a plus de 2 mois.
Et les suppressions de lits?
J'ai annulé, je n'ai pas annulé, mais j'ai gelé toutes les réorganisations du parc hospitalier pendant la crise et jusqu'à la fin du Ségur à minima, le temps de pouvoir discuter justement avec ceux qui font l'hôpital au quotidien, quel doit être le devenir des organisations. Vous savez, je n'ai pas découvert, mais je constate jour après jour qu'il y a des pilotages nationaux qui peuvent être rigides, détachés, éloignés des territoires,
ça,
éloignés
c'est
de la
c'est-à-dire
volonté des soignants.
C'est-à-dire qu'il faut aussi un big bang, j'allais dire, de la technocratie, de la bureaucratie mais hospitalière qui, et pas seulement une revalorisation salariale.
Je crois que ça fait l'unanimité dans notre pays, le fait que nous soyons extrêmement jacobins et qu'il y ait un excès de normes, un excès de bureaucratie, qu'il y ait parfois un mythe de la superstructuration et que ça ne correspond pas aux appétences du territoire. Moi, je crois à la souplesse, je crois à la flexibilité, je crois que ce ne sont pas des gros mots, au contraire, et à la confiance.
Monsieur le ministre, pour conclure, vous allez laisser tous ces dossiers à votre successeur la semaine prochaine?
Je ne sais pas, je ne suis pas président de la République et je ne suis pas non plus.
Mais vous ne le souhaitez pas, j'imagine que vous souhaitez les incarner, les porter, et encore.
Ah, moi je souhaite continuer évidemment mon travail. Il est passionnant, extrêmement prenant, extrêmement exigeant, pas toujours simple. Mais c'est aussi un travail qui fait jonction avec ma vocation. Au service de la santé, au service des personnes âgées en perte d'autonomie, au service des plus précaires, je suis ministre des Solidarités. Des personnes qui n'ont pas grand-chose ou des personnes qui n'ont rien. Au service des familles, et c'est une mission qui est, encore une fois, passionnante au quotidien, avec des associations engagées, des citoyens engagés, et il y a beaucoup de choses à faire.
Alors, on vous dit rendez-vous bientôt.
Bah écoutez, nous verrons.
Merci, monsieur le ministre Olivier Véran, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.